Bonjour Emmanuel Morel.
Bonjour Monsieur Rivière.
C'est donc ce soir qu'Emmanuel Macron va s'exprimer à l'issue du grand débat. Il va apporter sa réponse, c'est le terme qu'il a employé. Peut-il, selon vous, ce soir, mettre un terme à la crise ?
Non mais c'est une opération de communication. Depuis le début, M. Macron essaye de faire diversion et de gagner du temps.
Et là, on arrive au terme du processus.
Et là, vous avez des conseillers lycéens qui essayent de susciter le suspense, comme s'il s'agissait... du dernier épisode de Game of Thrones, alors qu'en réalité c'est la énième saison d'un mauvais sitcom, parce que le grand débat depuis le début, c'est du blabla, c'est-à-dire que Macron choisit les questions et il choisit aussi les réponses. Et j'entendais, je crois hier, la porte-parole du gouvernement qui disait, l'ISF, on n'en parle pas, alors que c'est quand même un sujet qui est revenu maintes fois dans le mouvement des Gilets jaunes. Le SMIC, on n'en parle pas, alors que c'est revenu maintes fois. Ce qui se passe dans la fonction publique, regardez, il y a une mobilisation de la fonction publique hospitalière, on n'en parle pas. L'industrie, on a la semaine dernière appris que Saint-Gobain à Pont-à-Mousson allait être racheté par des Chinois, on n'en parle pas. Bref, tous les sujets qui concernent la vie concrète et quotidienne des gens sont mis sous le boisseau. Et la seule réponse d'Édouard Philippe la semaine dernière, c'était de dire « on a compris le message ». On va baisser la dépense publique.
Alors, Édouard Philippe, nous a-t-on expliqué la méthode. Le président, ce soir, c'est le concret, le contenu. Alors, il y a quand même des pistes qui apparaissent comme assez probables et qui, vous allez nous le dire, mais semblent répondre, pour partie en tout cas, aux revendications qui sont exprimées, notamment une baisse de l'impôt sur le revenu par le biais de nouvelles tranches pour le rendre plus progressif. Il y a actuellement 5 tranches, 0, 14, 30, 41 et 45%. Deux nouvelles tranches à 5 et 10% seraient instaurées de manière à faire donc payer moins en bas du barème. Ça va dans le sens de ce que défend par exemple. Il en veut beaucoup plus, Jean-Luc Mélenchon. Il en propose 14, mais enfin, mais 7, surtout, c'est toujours mieux que 5, non?
Vous me la prenez, mais surtout, la première chose, c'est est-ce que oui ou non, ils rétablissent l'impôt sur la fortune?
Non.
Bah oui, mais vous voyez bien que c'est le principal problème. On parle de justice fiscale. Ça fait des mois, je crois, c'est 20 semaines de mobilisation. Le principal mot d'ordre, c'est on rétablit l'ISF. Pourquoi? Parce que c'est 5 milliards qui sont perdus, alors que ça pourrait être des dépenses utiles. Et on nous annonce que ça sera pas le cas. Vous voyez bien que c'est une opération d'enfumage. De la même façon, j'ai entendu ce matin, là, sur votre antenne, on parle des retraites. Mais sur les retraites, c'est la cacophonie générale, parce que on va peut-être réindexer les petites pensions, et en même temps... On nous dit que on va reculer l'âge de la retraite. Monsieur Darmanin lui-même avouait sur une radio du service public il y a peu de temps qu'il envisageait d'aller jusqu'à 65 ans. Donc ce sont des annonces qui se contredisent, mais la réalité c'est que monsieur Macron prétend tout changer, en fait il veut rien changer, il veut surtout pas changer de politique. Or c'est ce que lui demandent les gens depuis des semaines.
La question de l'ISF, est-ce que ça n'est pas un artifice politique, l'ISF? Vous avez compris, au fond, que le président de la République ne lâchera pas là-dessus, et vous ne lâchez pas non plus, ce qui fait un point de crispation qui peut durer comme ça.
Vous savez, des points de crispation, il y en a plein. Parce que je vous parle de l'ISF, je pourrais vous parler de la privatisation d'aéroports de Paris, ou de celle de la Française des Jeux, ou d'Engie, qui a été votée en catimini à l'Assemblée nationale à 6h du matin dans le cadre de la loi Pacte. Et ça, ça inquiète les gens légitimement, parce que aéroport de Paris, il y a des intérêts stratégiques, il y a des emplois en jeu. Donc moi, je ne me focalise pas sur l'ISF. Je pourrais vous parler de bien d'autres sujets sur lesquels le gouvernement n'est pas à la hauteur. Regardez les sujets industriels. BIC qui délocalise, Alstom qui est menacé. Et Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il vient devant l'Assemblée chaque semaine, il déplore, et puis il fait rien. Bah donc c'est un gouvernement qui ne fait rien sur les sujets essentiels et qui fait essentiellement de la com. Donc Monsieur Macron pense une fois de plus qu'il va intéresser les Français avec une émission à suspense ce soir. La réalité, c'est qu'ils ne répondent pas aux attentes des gens.
On va parler un peu des européennes, puisque on peut supposer qu'après l'intervention du chef de l'État, dans les prochains jours, la campagne européenne prendra toute sa place dans le débat public.
Je peux vous dire que nous, on est déjà en campagne depuis longtemps.
Oui, mais enfin, depuis le mois de décembre, le grand débat occupe beaucoup de place, peut-être un peu aux dépens de la campagne
européenne.
C'est
pour ça que je pense que Monsieur Macron voulait faire diversion et gagner du temps, parce que le jour où on va avoir Madame Loiseau tous les jours sur les plateaux télé pour nous expliquer le programme de La République En Marche, vous allez voir que ça va leur poser de sérieux problèmes, à la fois sur le fond et sur la forme.
La France insoumise reste sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle de 2017, c'est-à-dire qu'il y a un plan A qui est, je cite, c'est tenir les promesses de l'Union sociale, de l'Europe sociale qui lutte contre le dumping fiscal et social. Si ça ne marche pas, il y a un plan B qui consiste à instaurer, là je cite à nouveau, un rapport de force pour renégocier les traités et désobéir obéir aux dispositions qui nous posent problème, à commencer par les 30% de déficit. Est-ce que désobéir, c'est sortir ?
En tout cas, désobéir, c'est contribuer à créer un rapport de force.
Oui, le constat. Mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout.
Je vais aller au bout. Je vais aller au
bout. Parce que si vous êtes sur un stade de football et qu'à un moment donné vous décidez que vous prenez le ballon à la main, vous êtes sorti parce que vous respectez plus les règles.
Mais non, mais on n'est pas sur un stade de football.
Oui, là. Mais enfin bon, voyez l'image.
L'image, c'est simple. L'idée qu'on se faisait de l'Europe, c'est une union des peuples et des nations qui coopèrent. D'accord. On se rend compte de quoi depuis à peu près 20 ans, c'est la coopération et la concurrence généralisée. On n'est pas d'accord et on estime que ça lèse à la fois les peuples et singulièrement notre pays, la France, au détriment, par exemple, de l'hégémonie allemande. À partir du moment où on n'est pas d'accord, on remet en cause la structure existante. La structure existante, c'est les traités. Les traités, elles instaurent des choses qu'on ne peut pas remettre en cause, notamment la concurrence libre et non faussée, la libre circulation des capitaux, le libre-échange. On n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, il faut promouvoir la désobéissance. Oui. Je vous donne un exemple. Les aides d'État. Aujourd'hui, les aides d'État sont interdites par l'Union européenne. Récemment, la France a été rappelée à l'ordre par la Commission parce que la Commission estimait que les aides françaises au logement social étaient trop importantes. Et qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras ? Ben non, on dit c'est pas possible. Donc oui, il faut promouvoir une forme de désobéissance, créer un rapport de force, intéresser d'autres pays et d'autres partis à créer un mouvement. Et puis, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que oui ou non, les vraies questions dans ce débat, c'est est-ce que oui ou non on veut protéger l'industrie, l'agriculture, les savoir-faire européens ? Si oui, bah faut sortir des traités parce que les traités sont contre l'idée du protectionnisme même solidaire.
Les traités stupides, dit Jean-Luc Mélenchon.
Mais bien sûr, mais c'est pas seulement qu'ils sont stupides, c'est surtout qu'ils ne sont pas adaptés à la situation actuelle, la situation de crise avec l'urgence de la relance. Je vous prends un autre exemple. On n'en parle pas assez dans la campagne, on en parle un peu sur votre antenne, l'OTAN. Est-ce que oui ou non, on continue à promouvoir une Europe à la remorque des États-Unis ? On dit que c'est l'Europe de la paix, mais en réalité, c'est l'Europe de la guerre. Chaque mois, au Parlement européen, on vote des résolutions exclusivement hostiles à la Russie. Est-ce que c'est ça, ce qu'on veut comme politique étrangère et diplomatique de l'Union européenne ? Ben non. À un moment, il faut procéder à des ruptures radicales. Et c'est ce que propose la liste conduite par Manon Aubry.
Pour vous, ce qui est essentiel, c'est la souveraineté du peuple.
Ben oui. Tout démocrate, tout conséquent, en fait.
Quels sont les domaines de souveraineté que nous devons retrouver, que nous avons perdu actuellement ?
Ben, c'est la souveraineté économique, déjà. C'est pour ça que je vous parlais des traités. Moi, j'estime que dans une situation, par exemple, de récession...
Et la souveraineté économique, elle est compatible avec la monnaie unique et commune.
Bien sûr, à partir du moment où la monnaie unique, là encore, c'est un outil au service de politique économique, et c'est pas une fin en soi. Et à partir du moment où les objectifs de la Banque centrale, c'est pas seulement la lutte contre l'inflation, mais aussi la création d'emplois. C'est là encore qu'on revient sur les traités, puisque la Banque centrale, non seulement elle est autonome, mais en plus, elle n'a pas la croissance et la lutte contre le chômage comme objectif. Donc vous voyez bien que tout se tient, et que c'est un discours très cohérent, à la fois radical, mais raisonnable, sur ce qu'il convient de faire en Europe.
Vous voyez, Emmanuel Morel, dans cette élection, une sorte de revanche du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel.
Oui, alors c'est bien, un peu rapide.
Voilà, parce que est-ce qu'être revanchard, c'est constructif ?
Vous savez, quand même, il y a eu un affront qui a été fait au peuple français. Il a dit non. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est pour de bonnes raisons, parce que, précisément, il mettait le doigt sur les problèmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire on constitutionnalise des politiques économiques et on empêche, par exemple, des politiques de relance. Le peuple français n'a pas été écouté, voire même des dirigeants de droite comme de gauche, qui craignaient plus le verdict des avalanches de notation que la colère des peuples, ont refait un traité qui disait exactement la même chose. Bah oui, faut venger cet affront. Faut venger cet affront qui a été fait au peuple français. C'est pas de la revanche. C'est plus prendre en compte l'avis du peuple souverain. Et franchement, prendre en compte l'avis du peuple souverain, c'est ce que devrait faire n'importe quel dirigeant politique.
Merci Emmanuel Morel. Bonne journée.
Merci à vous.